Vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
18h40, on défait le monde maintenant dans RTL Soir. Le trio réuni, installé, Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier. Pour l'info, autrement, c'est le contrat, la promesse, jusqu'à 19h. Et on attend le menu, Cyprien.
Ce soir, on défait l'opposition russe. Pour la première fois depuis le début du conflit ukrainien, des voix s'élèvent à la télé russe contre la politique de Poutine. Qui sont ses opposants? Que risquent-ils? On va tout vous expliquer. Au menu également, les Japonais bloqués dans les années 80 avec leur disquette informatique, le tube de l'été des baleines et le héros du jour. Il est parti de Paris ce matin en char à voile, direction Nantes. On sera en direct avec lui dans un quart d'heure pour savoir où il en est. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
Cet
extrait de la télé russe NTV datant de ce week-end est en train de faire le tour du monde. Pour la première fois depuis le début du conflit ukrainien, il y a plus de 6 mois, des officiels sur un plateau d'une grande chaîne nationale remettent en question le bien fondé de ce conflit. Alors face à cet événement, avec l'équipe dont défait le monde, on a voulu en savoir plus sur ses opposants.
Qui sont-ils? Que disent-ils vraiment? Et comment interpréter cette sortie très inattendue?
Alors pour tout comprendre, on a appelé l'un des meilleurs connaisseurs de la Russie, c'est Lucas Aubin. Il est chercheur à l'IRIS, l'Institut de Recherche Internationale et Stratégique, et auteur de Géopolitique de la Russie, c'est aux éditions de La Découverte. Et avant d'aller plus loin, première chose, qui sont ces individus qui ont osé parler à la télé?
Ce sont des hommes politiques qui font partie finalement de ce qu'on appelle en Russie l'opposition à l'intérieur du système. Déjà, il faut savoir qu'en Russie, donc, il y a une opposition à l'intérieur du système et une opposition en dehors. Par exemple, Alexei Navalny fait partie de l'opposition hors du système, c'est-à-dire qu'il n'est pas toléré par le pouvoir. En revanche, les hommes présents sur ce plateau de télévision sont tous tolérés et acceptés. La plupart, effectivement, sont députés, sont membres de la Douma. Dans cet échange, on a deux hommes importants. On a Boris Nadiejdine et Sergei Mironov. Ces deux hommes, ils font partie du parti Russie Juste. C'est l'équivalent du parti socialiste en France, donc qui est accepté par le pouvoir et qui fait le jeu de la démocratie depuis, en fait, que Vladimir Poutine est au pouvoir.
Mais c'est quoi une opposition acceptée?
C'est-à-dire qu'en gros, ils s'opposent, mais pas trop quand même. Ils y vont mollo sur les critiques, vous voyez. Et d'ailleurs, quand on parle russe et qu'on prend la peine d'écouter toute l'émission en question, il s'avère que les critiques sont en fait très calculées.
C'est intéressant de noter que dans cette séquence, justement, on parle d'une séquence d'opposition très forte, etc. Mais aucun de ces hommes ne critique directement Vladimir Poutine. En fait, tous lui cherche, lui trouve même des excuses en disant « il a probablement été mal conseillé, c'est probablement les services de renseignement, le FSB, qui a donné de mauvaises informations, c'est probablement des généraux sur le terrain qui ont mal fait leur travail, etc. » Mais aucun d'entre eux, vous remarquerez, ne s'oppose frontalement à Vladimir Poutine.
Donc ça veut dire qu'a priori, il ne devrait pas boire un thé au polonium d'ici la fin de la semaine, hein, éviter l'empoisonnement, quoi. Au pire, ils seront interdits de télé pendant un mois.
Mais même si elle n'est pas si dure que ça, comment on peut l'interpréter cette critique?
Eh bien, en réalité, elle était tellement étonnante et tellement inattendue que même pour les experts, il n'y a pas de certitude.
Il y a deux hypothèses possibles. Donc la première hypothèse, c'est le dérapage incontrôlé parce que la contre-offensive ukrainienne était trop rapide. Et la deuxième hypothèse, c'est que pour les autorités russes, on s'achemine vers une défaite et qu'il est temps de préparer la population russe à cette défaite. Et on entend là des éléments de langage qui pourraient potentiellement être repris par la suite. Des éléments de langage du type « le président russe a été mal informé, et ça n'est pas sa faute s'il y a un échec sur le terrain, mais c'est bien la faute de son entourage, qui ne manquera pas, du coup, d'être mis à pied dans des jours proches.
En fait, il pourrait être là en service commandé.
Jusqu'à présent, dans les médias d'État en Russie, les gens présents participent à un jeu démocratique, fantoche, mais ont des discours à transmettre.
Ça pourrait donc être un coup de billard à 3 bandes, l'opposition dans son rôle, s'oppose et met en avant un coupable qui n'est pas Poutine. Et Poutine s'en sert pour faire le démocrate et mettre à pied ses conseillers.
Donc affaire à suivre. On y voit plus clair en tout cas sur ce moment de révolution, entre guillemets, à la télévision russe.
RTL, sous les radars.
On défait l'info, passée sous les radars.
Et même une info, passée sous l'eau. Nous venons de découvrir que les baleines avaient elles aussi leur tube planétaire, Isabelle.
Oui, une étude vient de montrer que des baleines à bosse peuvent chanter le même refrain alors qu'elles sont à 13 000 km les unes des autres.
Oh. Ça, c'est le chant des baleines.
Ça, c'est le chant des baleines. Joli, alors ça, on savait hein, que les baleines chantent, c'est très très doux. C'est comme ça qu'elles communiquent, les baleines. Parfois, il y a des codes spécifiques, des espèces de chants répétitifs, mais ça, c'est dans un même groupe de baleines. Or là, on a entendu le même thème en Polynésie française en 2016 et en Équateur ensuite en 2018. Un thème qui avait déjà été repéré en Australie en 2011, ce qui laisse penser que ces chants, eh bien, ils se transmettent d'un océan à l'autre. Et si un jour ça revient dans l'océan Indien, eh bien en fait ce tube il aura fait le tour du monde, sauf que probablement il aura un petit peu changé depuis son point de départ. En fait c'est un peu le téléphone arabe mais version baleine.
Formidable les baleines. L'info était passée sous les radars, mais donc pas sous les sonars.
Pas sous les sonars.
Petite pause et on défait le monde. Encore et toujours ensuite dans RTL Soir avec le loser du jour, une perdante, la disquette informatique. Bah oui, vous la pensiez disparue, vous aviez tort. À tout de suite.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy. Julien Cellier, Cyprien Signy ont défait le monde dans RTL Soir.
18h48, on défait toujours le monde. Effectivement, dans RTL Soir, et c'est l'heure du winner ou du loser du jour. Alors ce soir, Isabelle a choisi une grande perdante.
Oui, icône de l'informatique, c'est là. Disquette. On la croyait morte depuis belle lurette et pourtant, figurez-vous qu'elle vit encore au Japon, mais pour les plus pour longtemps, Isabelle.
Ouais. Est-ce que vous connaissez Taro Kono?
Bien sûr, ouais.
Bien sûr.
C'est un ministre.
Vous êtes fort, parce que moi j'ai fait sa connaissance il n'y a pas longtemps. C'est le ministre japonais de la transition numérique. Et voilà bien quelqu'un qui peut se dire tous les jours...
Non, je ne fais pas un métier facile. Hein.
Voilà, bon, il ne se le dit peut-être pas avec cet accent, mais il le dit sûrement. Pourquoi, me direz-vous? Why? Ou en japonais, douchite?
Ah oui, douchite.
Douchite. C'est vrai, la transition numérique au Japon, ça doit être une partie de plaisir. C'est le pays de la technologie, celui qui a inventé le Walkman, la PlayStation, l'ordinateur portable.
Mais ça... C'était avant.
Ben oui, c'est un peu le problème. C'était avant et le monde a changé et le Japon n'a pas changé. En tout cas, pas assez, pas pour tout. Alors Taro Kono prend le taureau par les cornes. Ce qu'on pourrait traduire par...
C'est pas chiant, je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
Oui, il part en guerre, Taro Kono. Contre les virus informatiques, les cyberpirates, non. Contre...
La disquette.
Ouais, vous vous souvenez de ce petit bruit?
Ah ouais.
Voilà, la disquette qui est toujours largement utilisée au Japon. Alors pas forcément à la maison, là quand même, on connaît un peu la clé USB et le cloud, mais dans l'administration, on en est resté au petit rectangle de plastique, là 3 pouces et demi.
Mais c'est complètement has-been.
Bah, c'est tellement has-been que Sony a arrêté la fabrication il y a plus de 10 ans. Il n'en revient pas, Taro Kono. Je ne sais même pas où on peut encore acheter des disquettes, c'est ce qu'il dit. En l'occurrence, les administrations ont des stocks. Et sinon, eh ben, figurez-vous qu'elles utilisent aussi des CD ou des mini-disques.
Mais pourquoi les administrations japonaises utilisent encore des disquettes? Ça paraît complètement absurde.
Parce que c'est écrit dans le règlement.
Ah,
et
d'accord.
Pas qu'une fois. Hein. Le ministère a fait les comptes. Il y a 1900 procédures administratives qui exigent une sauvegarde sur disquette. Or, au Japon, on est très attaché aux procédures. En plus, on est plutôt conservateur. Tant que ça marche, on ne change rien.
La règle, c'est la règle.
La règle, c'est la règle. Alors, il n'est pas au bout de ses peines, notre ministre japonais, parce qu'il n'y a pas que la disquette. Il y a aussi... Le fax. Toujours pas mort au Japon, le fax.
C'est pas vrai.
Et en pleine, je vous promets, en pleine épidémie de Covid, ça a été un gros, gros casse-tête pour mettre en place le télétravail. Mais bon, pour les Japonais, c'est comme ça. Le fax, c'est la sécurité. Même si l'électricité est coupée, les infos sont là sur une feuille. Bon, faut pas qu'il y ait une inondation ou un incendie, mais vous l'avez compris, tout ça n'est pas très rationnel.
Et c'est pas fini.
Ah ouais, parce que quand il aura terminé avec les disquettes et les fax, le ministre pourra aussi s'attaquer au hanko, ce sceau, ce tampon qui sert à signer les documents officiels. Tous les Japonais et toutes les entreprises japonaises en ont un. Il est personnel, il est unique. Et ça, ça existe depuis 2000 ans. Allez, bon courage, monsieur Kono.
Ils sont un peu vieux jeux, en fait, les Japonais.
Le match des infos pour briller au dîner.
Isabelle, face à Laurent, le match tous les soirs et en jeu tous les jours, le trophée de la meilleure info pour briller tout à l'heure au dîner.
Et c'est un peu la raison d'exister de cette émission, ce match sans merci qu'Isabelle mène 6-3 depuis le début de la
premier
saison.
Premier set.
1-7-0. Réaction attendue de Laurent avec ce soir la Ligue des Champions OM Francfort. Match à suivre en direct en intégralité sur RTL.fr, sur l'appli RTL et sinon en fil rouge à la radio.
Oui, mais je ne vais pas vous parler du club de Francfort, mais de la ville. On connaît la réputation de nos amis allemand, ordonné, discipliné, vous connaissez le Deutsche Qualität, mais là ça dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Les 200 000 arbres publics de Francfort sont numérotés. Oui, vous pouvez trouver une petite plaquette verte avec leur numéro. Alors tout ça, un objectif, nous permettre de rechercher sur le cadastre des arbres de la ville leur origine, l'année de plantation.
Oui, c'est intéressant. Si vous pouvez numéroter les hooligans aussi pour éviter qu'ils viennent dans la ville de Marseille, ce serait pas mal. Place désormais à Isabelle.
Là, Isabelle, c'est un peu la cinéphile de l'équipe. Oula. Et en toute logique, elle a choisi de briller grâce à Jean-Luc Godard qui nous a quittés aujourd'hui.
Jean-Luc Godard qui a réussi à convaincre Brigitte Bardot de changer de coiffure, mais d'une façon vraiment pas ordinaire. Vous allez comprendre, c'était sur le tournage du Mépris, 1963. Bardot avait un chignon choucroute énorme, pas du tout du goût de Godard.
Dis, mais écoutez, non, Bri-Bri, enfin, c'est trop grand, ça, on va baisser.
Voilà, sauf que Bri-Bri ne veut rien entendre, alors Godard lui dit...
Si je marche sur les mains, est-ce que chaque mètre que je marche sur les mains, est-ce que vous acceptez de baisser d'un centimètre votre coiffure? Et alors elle m'a dit oui, puis alors, ben voilà, j'ai fait ça.
Il le fait vraiment, il marche vraiment sur les mains très très bien, il lui a fait 15 mètres et voilà comment la choucroute de bébé a perdu 15 centimètres.
Elle est très forte.
Excellent. Pour briller au dîner, nouvelle victoire d'Isabelle soir. Oh là là, c'est compliqué de lutter avec vous.
Pauvre
Laurent. Allez, RTL Soir continue dans quelques secondes avec un défi fou, l'aventurier qui prend au mot le PSG et qui se lance dans un Paris-Nantes en char à voile. On l'appelle juste après ça, à tout de suite.
Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir.
On défait toujours
ou rêve.
Le monde dans RTL Soir. Avec un grand fil rouge aujourd'hui. Vous vous souvenez de l'entraîneur du PSG quand on lui demandait il y a quelques jours, mais votre équipe, elle ne peut pas éviter le jet privé. Il répondait, ouais, pourquoi pas le char à voile plutôt.
Eh bien, quelqu'un l'a pris au mot. Il tente le Paris-Nantes en char à voile via des pistes cyclables.
550 km de pistes au programme quand même. L'aventurier capitaine Rémi, c'est son surnom, est parti ce matin du Parc des Princes. Bonsoir Rémi.
Bonsoir.
Alors vous êtes où actuellement? Ça avance?
Alors ça avance. Je suis entre Créteil et Orly.
Oula.
Mais c'est pas le bon côté.
Alors je me suis trompé de sens ce matin. Non, sérieusement, c'est l'itinéraire. Je vais descendre la Seine jusqu'à la Loire.
D'accord.
Et après vous remontez.
Et ensuite, je descends la Loire jusqu'à Nantes. Ouais.
Ben, on entend beaucoup de bruit de circulation autour de vous. C'est pas trop compliqué, le char à voile au milieu des voitures?
Très, très, très compliqué. J'essaye d'être sur les pistes cyclables. Mais en fait, j'ai un problème, c'est que mon mât, il fait 5 mètres de haut. Et il y a beaucoup de ponts et il y a beaucoup d'arbres. Du coup, des fois, je suis obligé de dévier et d'être sur la route.
Donc, vous avez été klaxonné plusieurs fois depuis ce matin?
Alors klaxonner, mais klaxonner aussi en mode trop bien ce que tu fais. Y a tout le monde qui me fait coucou et qui m'encourage à avancer, parce que je crois que les Français, ils sont ils aiment bien ce projet et surtout ils sont conscients du défi qu'on a avec le réchauffement climatique.
Ouais. En plus, vous êtes facilement reconnaissable. Alors d'abord parce que vous êtes en char à voile sur la route, mais en plus sur votre char il y a le logo détourné du PSG. Vous avez mis possible sans gasoil, c'est ça?
Exactement, j'ai envie de montrer qu'un autre monde est possible et qu'on peut ne pas utiliser le jet.
Mais alors, le président de la Fédération de char à voile, parce que nous on a enquêté avant que vous lanciez votre défi, il nous disait dans l'émission il y a quelques jours qu'il fallait les bonnes conditions, le vent comme il faut et que c'était possible en 9 heures. Vous le sentez en 9 heures le Paris-Nantes?
Alors, pas du tout. Honnêtement, là, j'ai tablé sur 5 jours. Moi, j'ai un impératif, c'est que je dois être dimanche à Nantes pour jouer mon spectacle. Mais honnêtement, là, je fais du 10 km/h. J'ai fait que 25 km aujourd'hui. Ça va être compliqué.
On entend les coups de klaxon.
C'est quoi? Vous portez un message écologique aussi là-dessus?
Oui, complètement. C'est important pour moi de sensibiliser les gens, de remettre un petit coup de projecteur sur ce qui s'est passé et de prendre conscience, oui, qu'on n'est pas obligé de prendre l'avion toutes les semaines pour se déplacer, surtout qu'en France, il y a des moyens de transport autres comme le TGV. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le train à grande vitesse.
Très, très vite. Il y a du vent?
Non, il y a zéro vent.
Ah oui, c'est ça le problème. Ouais, ça.
Donc vous le poussez le char à voile en fait?
Alors non, j'ai de la chance, il y a des pédales sur la roue avant. Donc là pour l'instant je pédale beaucoup, sachant que demain la météo se gâte un peu. Donc il y aura de la pluie et certainement du vent.
Je confirme.
Bon, on va faire un point météo justement dans un instant. Merci Rémi, surnommé capitaine Rémi, l'homme qui a pris au mot l'entraîneur du Paris Saint-Germain et qui tourne donc à Paris-Nantes en char à voile. Alors on a compris que c'était un petit peu compliqué pour l'instant, mais on va suivre vos aventures, cher Rémi. Merci les amis d'On défait le monde, on se retrouve demain à 18h40 dans RTL Soir. Alors.